Joyce et moi sommes très heureux d'être de retour parmi vous. C'est la deuxième fois cette année, je ne sais pas, mais ça commence à devenir une habitude. Mais nous sommes toujours heureux d'être là et on vous salue très chaleureusement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir de vous voir et l'accueil est toujours impeccable. Et en plus, on mange et on aime bien la cuisine chinoise. Bon, donc, merci beaucoup donc d'avoir pensé à nous. Une des raisons que j'aime venir aussi à l'église, bon, j'aime les enfants, j'aime les tout-petits. La dernière fois, j'ai rencontré Louise. Cette fois-ci, j'ai rencontré Théodore. Ce sont des tout-petits qui grandissent. Et ce qui est le propre d'un enfant, d'un bébé comme ça, c'est la croissance. On ne reste pas petit toute sa vie. C'est normal pour un bébé, pour un enfant, de croître, non seulement physiquement, mais en général, en maturité sociale et intellectuelle. Le bébé ne connaît pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais nous prions qu'à un certain âge, jeune encore, que ce jeune enfant puisse faire la connaissance de Jésus-Christ et commencer une croissance spirituelle. Donc, félicitations pour les beaux enfants que vous avez ici dans votre église. C'est exactement la même chose pour l'enfant de Dieu. Tout comme un enfant est appelé à grandir, à croître, à ne pas rester au stade d'un bébé, c'est la même chose pour l'enfant de Dieu. Après sa nouvelle naissance, pour moi, la nouvelle naissance a eu lieu le 22 septembre. Je ne sais pas si je devrais vous donner l'année parce que ça va vous effrayer. Mais c'était quand même après la Deuxième Guerre. J'avais 9 ans et j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai été né de nouveau. J'avais déjà 9 ans, j'avais déjà quand même un bout de croissance. Mais j'ai commencé une autre croissance. Après la nouvelle naissance, l'enfant de Dieu est appelé à grandir et à se développer en grandeur spirituelle et en maturité, pas simplement physiquement, socialement, intellectuellement, mais surtout maturité spirituelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La maturité spirituelle ou la croissance dans la sagesse de Dieu est le but que Dieu attend de chacun de ses enfants. La vie chrétienne normale est la croissance en Christ. Est-ce que vous êtes un chrétien normal? Alors, si vous l'êtes, vous retrouverez dans ces versets de Paul, dans Éphésiens 4, je pense que vous avez eu une série aussi dans Éphésiens, parce que la dernière fois que j'étais là, vous m'avez demandé de prêcher aussi dans Éphésiens. Éphésiens 4, 13. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femme faite, mais ça veut dire tout simplement, on arrive à une certaine maturité, on ressemble à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça, c'est la vie normale du chrétien. La vie anormale du chrétien, c'est de rester au stade d'un bébé chrétien toute sa vie. La garderie ici, ce n'est pas pour des adultes, où il faut donner un biberon spirituel pour croître. C'est ici où ça se passe. Et on grandit tous ensemble. Tous sont dans des stades différents de croissance. Mais la vie chrétienne normale est la croissance dans la maturité en Christ. Et dans le passage devant nous aujourd'hui, l'apôtre Paul parle de 3 marques parmi bien d'autres, du chrétien qui vit dans la maturité croissante en Christ. Alors, nous reconnaissons certaines personnes, disons des adeptes d'un parti politique, parce qu'ils ont des marques, pas physiquement bien sûr, mais ils ont tous un peu les mêmes slogans, ils partagent dans un même parti politique les mêmes idées, etc., etc. On voit que ça c'est les marques de tel ou tel parti, ou de tel ou tel club, ou tel sport, etc. Mais les chrétiens aussi ont des marques qui le définissent comme un enfant de Dieu. Et les trois marques dans ce passage, parmi bien d'autres, démontrent ce que c'est que vivre la maturité chrétienne croissant en Christ. Je vous invite à regarder ensemble ces trois marques que Paul énumère pour nous aider à avancer en Christ et avec lui. Mais prions de nouveau avant d'aborder ce passage. Seigneur, je me mets devant toi, car j'ai besoin de ton aide cet après-midi. Et je sais que physiologiquement, les cours de l'après-midi à la fac étaient toujours difficiles, et je n'étais pas le plus éveillé. Je prie, Seigneur, afin que ton énergie puisse vraiment me remplir, mais pas simplement ton énergie, mais cette vie spirituelle dans le Saint-Esprit, puisse m'animer pour que je puisse apporter ce message que tu veux que j'apporte aujourd'hui. Et je ne sais pas, Seigneur, nous sommes tous différents ici, à différents stades de croissance, et peut-être certains n'ont pas encore pris une décision de suivre Jésus-Christ. Mais je prie, Seigneur, afin que tu touches chacun là où il ou elle se trouve. Je prie, Seigneur, afin que tu nous ouvres la compréhension de notre esprit spirituellement pour comprendre. Aide-moi aussi à être ton émissaire et je te glorifierai avec mes frères et sœurs au nom du Seigneur Jésus. Amen. Trois marques du chrétien. La première marque dans ce passage, et vous avez les trois versets devant vous, et de progresser vers le but de Dieu pour nous. Je n'ai pas besoin de relire les versets, vous les avez devant vous. Paul dit d'abord que progresser vers le but de Dieu veut dire de reconnaître son besoin de grandir en Christ. Je vais quand même relire les versets 12 et la première partie du verset 13. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Alors, il est évident que Paul estime qu'il avance vers quelque chose. Il progresse vers un but de Dieu pour lui. Il y a des chrétiens qui pensent que tout ce qui est nécessaire pour vivre en chrétien, c'est de recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Et c'est tout. Et on a le billet pour le ciel dans la poche, et ça suffit. Je suis chrétien, je suis né de nouveau. Mais est-ce que vous allez rester dans la garderie pendant toute votre vie chrétienne, et on vous donne un biberon spirituel parce que vous ne savez pas grandir? Vous allez au ciel, oui, vous avez le billet du ciel par votre foi en Christ et le salut qu'il vous a accordé en Christ, mais comme on a chanté tout à l'heure, il y a la croissance vers la maturité, il y a la sainteté, il y a la marche vers la glorification que Dieu veut nous donner. Le résultat de cette attitude, je n'ai besoin que d'un billet pour le ciel, c'est qu'on reste à l'état d'un nourrisson spirituel, dans une médiocrité. C'est ça qui est terrible. C'est un chrétien qui est médiocre et pas intéressant. Je connais l'histoire de, bon, ça s'est passé il y a des années, au pays de Galles, au début du XXe siècle, mais je suis en René, hein, rassurez-vous, au début du XXe siècle, il y avait un réveil au pays de Galles. Et il y avait un vieux mineur, parce que c'est un pays de mines, qui s'est converti merveilleusement. Et à tel point qu'on lui demandait de donner son témoignage un peu partout. Il avait même écrit son témoignage pour que ce soit plus facile. Et puis avec les années qui passaient, on lui demandait plus de donner son témoignage. On avait oublié un peu. Puis un jour, on était en train de rappeler ces jours-là, et quelqu'un a dit à ce mineur, « Mais écoute, est-ce que tu peux, dimanche prochain, donner ton témoignage ?» Donc, oui, bien sûr, donc il est rentré chez lui, il est allé au grenier où il avait rangé son témoignage, et il est venu à l'église le lendemain, on lui demande de prendre la parole, et il dit, « Mes frères et sœurs, je regrette, je ne peux pas donner mon témoignage, parce que les souris ont mangé mon témoignage. » Donc, quel était son témoignage? Ça n'avait pas bougé depuis je ne sais pas combien d'années. Et c'est triste. Quand on reste un nourrisson spirituel toute sa vie dans une médiocrité qui attriste Dieu. Mais Paul dit que, quant à lui, il vit une course. C'est plutôt un marathon, hein, ce genre de course qu'il vit. C'est quelque chose qui l'enveloppe, qui est toute sa vie. Et il court, pas pour rien, mais avec un but. Il a l'œil vers le but. Vous n'avez jamais remarqué, ça s'est vu dans certaines courses, il y a des gens qui devinent que l'adversaire est en train de l'attraper, et puis on tourne, et qu'est-ce qu'on fait? On peut trébucher, on peut perdre du temps, et l'autre peut dépasser. Donc dans la course, on regarde le but, et on fonce vers le but en Christ, dans le cas d'un chrétien. Et Paul dit qu'il veut saisir le prix que Dieu lui offre à la fin de sa vie. Il reconnaît que malgré ses progrès avec Dieu, il en a eu, il n'a pas encore atteint la perfection ou la maturité que Dieu attend de lui. Le passage parle plus tard d'être parfait. Ça, on va en parler tout à l'heure. Mais il s'agit plutôt de maturité plutôt que de perfection. Parce que nous savons que de ce côté-ci du ciel, on n'est pas parfait. Mais un jour, on le sera quand on sera avec lui. La vie en Christ est beaucoup plus que le salut de nos péchés, que le billet pour le ciel. C'est une vie de progrès en Christ, une vie qui nous apporte de plus en plus de plénitude, jour après jour. Qui sont les chrétiens qui vous donnent envie? Ce sont des chrétiens qui ont vraiment quelque chose dans leur relation avec Dieu. Ils sont dynamiques, ils ne sont pas statiques, ils ne sont pas mous, ils ne sont pas abattus tout le temps. Ils vont de l'avant avec Christ et ils arrivent à grandir, à avoir une maturité, à avoir une sensibilité, à avoir une sagesse en Christ. Et ils vivent une vie de plénitude. Je ne parle pas maintenant sur le plan matériel. Je parle bien sûr de notre relation avec Dieu. C'est une vie de progrès en Christ. Des progrès qui ne s'arrêtent jamais avant notre mort. Et ce progrès, c'est d'aller de l'avant vers la maturité en Christ. Paul dit ensuite, après le verset 13, la première partie du verset 13, la deuxième partie de ce verset, il dit, « Je fais une chose. » Alors, peut-être que ça ne vous frappe pas, mais c'est l'une des plus importantes choses, que Paul aurait pu faire dans sa vie. « Je fais une chose. » Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul dit que progresser vers le but de Dieu veut dire de ne plus regarder en arrière. J'ai parlé du coureur tout à l'heure, du coureur qui pouvait regarder en arrière et trébucher ou perdu du temps, etc. Paul regarde vers l'avant. Et pourquoi? Parce que pour Paul, son passé était à la fois un sujet d'orgueil, mais aussi un sujet de honte et de culpabilité. L'orgueil venait, puis vous l'avez peut-être vu dimanche dernier, je ne sais pas si vous avez un message sur Philippiens toutes les semaines, mais je ne sais pas. Mais au verset 4, 5 et 6, l'orgueil venait de son héritage juif. Il venait de sa grande intelligence et d'une instruction dans l'école des élites de l'époque. Il est allé aux grandes écoles, il est instruit au pied du plus grand rabbin de l'époque. Il était orgueilleux à cause de cela. Mais aussi, en regardant en arrière, il y avait la honte et la culpabilité. Pourquoi? Parce qu'il avait persécuté l'Église qui est le corps de Christ. Et rappelez-vous quand Christ l'a arrêté sur le chemin de Damas, rappelez-vous ce qu'il a dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Je pense qu'il voulait dire « Monsieur » parce qu'il ne le reconnaissait pas encore comme Seigneur. « Qui es-tu, Monsieur ?» Et Jésus a dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Ben, » il ne persécutait pas Jésus. Jésus était mort, enseveli, ressuscité et monté au ciel. Mais il persécutait l'Église qui est le corps de Jésus-Christ. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et l'apôtre Paul était arrêté, vraiment, c'est le sens vraiment très fort du terme, sur ce chemin de Damas. Et il aurait pu rester en regardant en arrière sur la honte et la culpabilité de son passé. Paul savait pertinemment que s'il se fixait sur son passé, il aurait été empêché d'avancer avec Christ. Donc, par un acte de la volonté, il oublie l'orgueil et la honte de son passé. Il le met derrière lui. Pour nous, l'orgueil de nos accomplissements pourrait nous faire croire que nous sommes bien parce que nous avons fait beaucoup d'œuvres. C'est un salut par les œuvres. On se reposerait sur ses œuvres pour être sauvé et on escamoterait la grâce de Dieu. Il y a des personnes comme ça. Regarde ce que j'ai fait. Même des pasteurs, excusez-moi de le dire, mais des pasteurs qui se vantent de ce qu'ils ont fait. La grande église que j'ai construite. Tous les gens qui sont venus entendre mes bons messages et tout cela. Moi, j'ai entendu des pasteurs parler un peu comme ça. J'ai été dans des pastorales, plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, ici, où on parlait un peu comme ça, et j'en ai été dégoûté, franchement. On n'a aucune raison d'avoir de l'orgueil à cause de nos accomplissements du passé. Pour nous, oui, on peut se reposer sur nos œuvres, et ce n'est pas un salut. Ou bien, nous pourrions nous fixer sur la honte de nos nombreux péchés du passé, ce qui nous empêcherait d'avancer avec Dieu. Je ne sais pas, vous êtes pour la plupart encore assez jeunes et probablement vous n'avez pas été un grand caïd ou un bandit ou je ne sais pas, vous n'avez pas fait une descente dans une banque ou je ne sais pas trop, un terroriste ou quelque chose comme ça, bon. Mais tous, nous avons des choses dans notre passé qui nous font honte. Et Dieu nous a sauvés. Si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a sauvés de ses péchés. Et il a tiré un trait dessus. Non seulement cela, la Bible dit même qu'il a oublié nos péchés si nous avons demandé le pardon en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas regarder en arrière vers ses péchés. Et nous avons un ennemi qui va nous pousser à regarder en arrière et il va nous dire « Voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. » Et nous allons avoir honte et cela va nous empêcher d'aller de l'avant avec Christ. Paul dit que progresser vers le but de Dieu est aussi de savoir quelle est la vocation de Dieu pour nous, au verset 14. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Chacun de nous a la vocation de devenir de plus en plus saint en Christ. C'est la vocation de tout chrétien. Mais Dieu a aussi des buts personnels et particuliers pour chacun de vous. Je ne suis pas là pour vous dire, toi et toi et toi et toi, vous devriez être pasteur, et vous et puis toi et toi, toi, missionnaire, etc. Et puis l'autre, je ne sais pas, enseigner dans un fac de théologie. Non. Mais Dieu vous dira, si vous écoutez sa voix, mais il faut l'écouter. Il faut être branché sur lui. Si vous n'avez pas la connexion ou si votre smartphone est éteint, si vous n'avez pas de réseau, vous n'allez pas écouter Dieu. Réseau avec Dieu, bien sûr, je parle. Il ne va pas parler par votre smartphone, ça pourrait arriver. Il a déjà parlé par un âne, donc il pourrait parler par un smartphone aussi. Mais l'important, c'est d'écouter Dieu. Il veut que vous grandiez en sainteté, mais il veut aussi que vous écoutiez la vocation particulière qu'il a pour chacun de nous. Et c'est entre vous et Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va vous le dire. Donc la première marque du chrétien, c'est de progresser vers le but de Dieu pour nous. Une deuxième marque de la maturité chrétienne est de vivre dans l'unité en Christ. C'est les versets 15 à 17. Oh voilà, formidable, donc un projectionniste qui est vraiment littéralement à la page. C'est très bien, au verset. Dans ces versets, surtout 15 à 17, Paul insiste sur l'importance de vivre ensemble le but de Dieu pour nous en tant qu'individu et en tant qu'Église. Vous savez, la vie chrétienne ne se vit pas en solo ou en solitude, mais en famille. Et cette famille, c'est l'Église. Bon, je prêche à des convertis parce que vous êtes là. Et vous faites partie de l'Église pour la plupart, et puis vous comprenez ce que je veux dire. Et Paul utilise un terme intéressant pour expliquer que vivre dans l'unité est une marque du chrétien mûr. Il parle des hommes faits. Nous, donc, tous qui sommes des hommes parfaits, et la traduction, mais c'est la même chose. Des chrétiens parfaits. Mais le mot que Paul use, le mot en grec qu'il utilise, est bien le mot parfait. Mais il veut dire par cela que vous possédez une maturité spirituelle croissante. La perfection n'est pas ici. Quand j'étais, avant de me marier, il y a plus de 51 ans maintenant, je pensais que je pourrais avoir le mariage parfait. J'avais un certain nombre de recettes d'un bon mariage. J'avais lu des livres, j'avais observé. J'allais avoir le mariage parfait. Tout le monde regarde Joyce, pauvre Joyce. Donc. J'avais la recette et ça allait être du gâteau. Seulement, je me suis marié et je me suis rendu compte que j'avais jamais fait un gâteau. J'avais la recette, mais j'avais jamais fait. Donc, au bout de 25 ans, le mariage commençait à ressembler à quelque chose. Ne vous découragez pas. Donc, ça peut aller plus vite. Ça peut aller plus vite pour vous. Mais Joyce a eu beaucoup de patience, disons. Parfait ne veut pas dire qu'on est sans faute du tout. Si on tombe dans le péché, on demande pardon à Dieu. On se relève et Dieu est là pour nous relever. Et il nous aide à aller de l'avant avec lui. Ne pas regarder en arrière. Sauf, il y a une raison pour regarder en arrière. C'est de profiter des erreurs du passé. Mais seulement. Parce que si nous fixons notre regard sur ce qui est en arrière, nous allons trébucher et notre ennemi est là pour nous aider à nous trébucher aussi. Et puis au verset 16, l'unité spirituelle veut dire non seulement vivre ensemble, mais avancer ensemble. Au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Marchons d'un même pas. Il y avait même une autre traduction dans, qu'est-ce que tu as Joyce dans le summer? Dans la même direction. Tout cela veut dire qu'on est ensemble dans ce que nous faisons. Une église qui vit dans l'unité du Saint-Esprit est une belle église, est une église qui va de l'avant, est une église qui sert le Seigneur, qui fait la volonté du Seigneur, est une église qui grandit, est une église qui touche la région autour. Et c'est vraiment une église comme Dieu désire qu'elle soit. L'église est forte quand les frères et sœurs avancent ensemble vers un même but. Satan fera tout son possible pour nous diviser. C'est le grand diviseur et n'oublie jamais que la division est toujours l'œuvre de Satan. Toujours. Parce que ça, c'est son but pour l'église. Et pourquoi? Parce qu'il craint l'unité des chrétiens. On a chanté un petit peu tout à l'heure cela. Il craint l'unité des chrétiens. Il sait que les chrétiens unis sont des chrétiens qui sont mûrs en Christ et qui progressent vers le but de Dieu. On n'est pas dispersés, on ne fait pas n'importe quoi. On va de l'avant ensemble. Il sait que quand les chrétiens sont unis, ils sont forts. Et c'est pour ça qu'il essaie d'apporter la division. Mais vivre cette unité en Christ veut dire aussi avoir de bons modèles. Au verset 17, « Soyez mes imitateurs, frères. » Ouh là là, oui, on pouvait l'être, hein. « Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Quels sont vos modèles? Le monde nous propose toutes sortes de modèles. Et la plupart, je dirais la quasi-totalité, sont de faux modèles. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé l'émission hier soir des prix de musique, hein, c'était la TF1, je ne sais pas. J'ai pas regardé moi-même, donc je sais pas trop, mais enfin. Et on présente des gens comme ça, comme étant vraiment arrivés. Parce qu'ils sont beaux, ils chantent bien, ils sont bien habillés, plus ou moins, ça c'est aussi selon l'avis de l'un ou l'autre. Enfin, il y a tant de modèles, il y a des athlètes. Voilà, et puis, on a découvert la semaine passée qu'il y a un bon athlète français, joueur de foot, qui tire bien peut-être, mais il a des pieds d'argile. Ah non, mais quels sont nos modèles, nos vrais modèles? Nos modèles sont ceux qui marchent selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce sont les modèles que nous devons suivre. Et attention, même ces modèles-là peuvent trébucher. Donc attention. Mais si vous allez suivre un modèle, choisissez un modèle qui est conforme à la parole de Dieu. Mais il y a une troisième marque de la maturité chrétienne. Et c'est de vivre comme un citoyen du ciel ou du royaume de Dieu. Ça, c'est Philippiens 3, 18 jusqu'au verset 1. Je ne sais pas, vous ne pouvez peut-être pas tout mettre, mais c'est pas grave. Citoyen du ciel. Paul constate avec tristesse que certains, au verset 18 et 19, sont ennemis de l'œuvre de Christ. Dans certains cas, ces personnes pourraient être des gens qui se sont détournés de la sainte doctrine et qui essaient d'en détourner d'autres. Ce qui est certain, c'est que ce sont des personnes nombreuses qui s'opposent à l'Église et au témoignage des chrétiens. Et l'apôtre Paul dit, ils vont vers la perdition, ces gens-là. Et il est très attristé par ce fait. Mais au verset 20, contrairement à ses opposants, chaque enfant de Dieu est d'abord un citoyen du ciel. Cela ne nous empêche pas d'être un bon citoyen de la République. Ou au contraire, Paul dit dans sa lettre aux Romains que c'est un bon témoignage d'être soumis aux autorités. Mais le citoyen du ciel a des valeurs qui sont autres que celles du monde. De plus, le citoyen du ciel attend la venue de Jésus au verset 21 qui le transformera comme il a été transformé lui-même pour lui permettre de vivre au ciel, au royaume de Dieu. Dieu nous transformera, Jésus nous transformera parce que dans le corps qu'on a maintenant, on ne peut pas aller au ciel. Mais on aura un corps comme Jésus. Et comme ça, on pourra aller au ciel et vivre avec lui dans le royaume de Dieu. Paul termine ce passage au verset 1er du chapitre 4 par une exhortation forte pour le citoyen du ciel. Demeurez ferme dans le Seigneur. Et pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce qu'il est tellement facile d'être déstabilisé dans sa vie avec le Seigneur. Demeurez ferme dans le Seigneur. Paul sait que c'est en demeurant ferme dans le Seigneur que nous pourrons progresser et vivre dans la maturité en Christ. Même dans un monde en perdition, nous pouvons et nous devons vivre en bon citoyen du ciel. Demeurez ferme dans le Seigneur. Non, je ne dis pas qu'il faut vivre tellement avec la tête dans le ciel qu'on n'est plus bon pour rien ici sur terre. Il y a des chrétiens qui sont toujours, ils vivent tellement au ciel déjà, qu'ils perdent qu'il y a un monde ici qui est à gagner pour Jésus-Christ. Donc soyons réalistes, ayons les pieds sur terre, et la tête, si vous voulez, dans le royaume du ciel, et le cœur aussi. Mais nous avons un témoignage à rendre ici, parce que nous sommes citoyens aussi de ce monde. Il y a bien des années maintenant, Joyce et moi avons demandé la nationalité française. Alors, je pense que vous savez que nous sommes originaires des États-Unis. Bon, donc on a la double nationalité maintenant. Il y a 14 ans, j'ai reçu une feuille du président Jacques Chirac, pour lui, certainement il n'a pas écrit cette lettre lui-même, disant que j'ai l'honneur de vous savoir que depuis le 8 décembre, vous êtes français. Alors je me suis tourné vers Joyce et j'ai dit, tiens Joyce, tu n'as pas dit que depuis une semaine tu couches à côté d'un Français. Bon, enfin, on était Français. Et j'ai une carte nationale d'identité qui atteste de cette nationalité, cette citoyenneté. Mais bien longtemps avant, à l'âge de 9 ans, j'ai dit, je suis devenu citoyen du ciel. Quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ma carte d'identité du citoyen du ciel n'est pas en plastique. Ça, c'est périssable. Non, elle est plus durable. Ma carte d'identité du citoyen du ciel est écrite dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Et Dieu tient ce livre. Et personne ne pourra effacer mon nom de ce livre. Et vous? Combien de cartes d'identité avez-vous? Une seule, celle du pays de votre nationalité? Ou une deuxième, qui atteste par la foi en Christ, comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes un citoyen de son royaume? Je prie de tout mon cœur que ce soit le cas pour chacun ici aujourd'hui. Et que chacun vive aussi la plénitude de Dieu, en allant de l'avant, ensemble, ici dans l'église de sa mort et ailleurs, vers une véritable maturité en Christ. Que Dieu nous aide chacun à être parfait, c'est-à-dire mûr en lui, et de continuer cette croissance pendant toute votre vie. C'est ma prière pour moi-même, c'est ma prière pour vous. Amen.